Alors aujourd'hui, nous avons dans le studio Luigi Cicciariello. Est-ce que vous pourriez vous présenter?
Oui, bonjour.
Bonjour Luigi.
Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Merci de m'avoir invité, mais voilà. Tu m'avais téléphoné pour un peu parler de ma carrière. Voilà, je suis arrivé, moi, en fait, je suis arrivé en Belgique en 1968 et j'avais 16 ans.
Ah oui, quand même, ça remonte.
Voilà. Donc, si on veut parler un peu d'immigration, si on veut parler un peu d'intégration, eh bien, avant, c'était très, très facile. C'était très facile parce que on avait besoin de gens qui voulaient travailler.
Ouais, il y avait un manque de main-d'œuvre, hein, c'était pas
oui,
ici,
oui, ouais. Mais bon, ce qui était bien, c'est qu'avant, on pouvait travailler à partir des 16 ans. Tandis que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, malheureusement, avant 19 ans, ils ne peuvent toujours pas travailler. C'est quand même une grande et grosse bêtise.
Et en parlant de ça, qu'est-ce qui vous a motivé à quitter l'Italie pour vous installer en Belgique ?
L'aventure, je voulais. Dans mon petit village, je l'étais trop petit pour moi. Et donc, voilà.
Et pourquoi avoir choisi la Belgique ?
Eh bien, c'est tout en... C'est le destin. Ce sont des circonstances. En fait, j'avais terminé mes études normaux. Disons, j'avais fait en Italie les 5 années d'école primaire. Les secondaires, ça durait 3 ans. J'ai fait une année de lycée classique. Et puis, mon père m'a dit, tiens, comme tu aimes la pâtisserie, comme tu aimes le restaurant, il y a un cours ou un spécial où on peut avoir un diplôme en 1 an au lieu de l'avoir en 3 ans.
Ah.
C'était une organisation d'élévation sociale qui avait été promulguée par l'État italien. Et je fais ça, c'était près de Naples, c'était à Montefaito, et donc voilà, tous les élèves, on était dans un hôtel pendant 7 mois. Le matin, on faisait la théorie, l'après-midi, on faisait la pratique, une semaine sur deux. Et si tu réussissais ton année, tu avais un travail d'office, et en même temps, on touchait pendant les études 5 livres par jour. Ce qui correspondrait...
Sans lire.
Sans lire, oui. Bon, avec ça, tu pouvais t'acheter...
Je ne sais pas ce que ça fait. J'ai été en Italie une fois et c'était encore les lire, mais je ne sais plus ce que ça vaut.
Aujourd'hui, ça vaudrait 1 euro, quoi. Donc,
ah oui. Okay.
Et donc, c'était vraiment comme... Et en fait, c'était vraiment très, très, très chouette parce que... Moi, j'ai adoré faire cette école hôtelière. Et on avait des cours de français, on avait des cours de cuisine, on avait des cours de salle, on avait des cours d'élégance. On devait soi-même faire sa chambre. C'était vraiment une expérience magnifique.
Ça ressemble un peu à... Enfin, c'est très discipline. Hein. On apprend la discipline.
Là, c'était vraiment très discipliné.
Ouais, c'est presque comme à l'armée, quoi.
C'est exactement comme à l'armée.
Comme à l'armée, oui.
Voilà. Et si tu ne suivais pas, comment dirais-je, les règlements, tu étais renvoyé. Tout le matin, il fallait se laver, il fallait faire sa chambre, il fallait se raser, il fallait être impeccable. Non, c'était une très, très belle expérience. Et après, donc, mon premier contrat de travail était pour une firme belge. Donc, l'hôtel faisait 3 mois, ou 3 ou 4 mois pour la saison d'été. La saison d'hiver, c'était fermée. Et donc, ils ont dit, voilà... Après la saison, on vous amène en Belgique, comme ça vous apprenez le français.
Ah.
Et moi j'adorais déjà les français, j'ai toujours adoré les langues.
Ah oui. Bah, c'est... Quand on est mordu de langue, effectivement, alors on a toujours envie de plus.
Ouais.
Et vous parliez juste l'italien à cette époque-là ?
Attends. Juste, je vais dire ça en off, donc je vais couper au montage, mais est-ce que... vous pourriez essayer de parler directement dans le micro, parce qu'en fait, quand vous parlez comme ça, on entend de loin.
D'accord.
Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est une fois ou deux, c'est pas très très grave, mais effectivement, quand vous déviez la trajectoire du micro, ça, Voilà, on entend.
C'est un peu compliqué à capter.
Capito.
Vous n'êtes pas obligé d'être collé dessus, mais juste quand vous tournez la tête à droite ou à gauche, alors ça peut.
D'accord.
Effectivement. Et donc on en était où ?
Je vais poser une autre question, comme ça on continue. Et quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés en tant qu'immigré à votre arrivée ?
Répétez la question.
Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés en tant qu'immigré italien à votre arrivée en Belgique ?
Aucun.
Aucun ?
J'étais très curieux de tout. Je voulais conquérir le monde. Donc, voilà, j'étais enthousiaste d'avoir un travail. Et
ça vous suffisait déjà comme début ?
Oui, mais voilà, j'ai fait l'école hôtelière, j'avais eu mon diplôme, j'avais travaillé en Italie. On m'avait ramené ici en Belgique pour apprendre le français. Et on m'avait désigné un restaurant étoilé déjà, qui était le restaurant La Couronne à la Grande Place.
Ah oui.
Oh.
Et en fait, quand j'étais là-bas, il y avait 50 personnes qui travaillaient. Donc j'étais le petit commis qui arrivait, donc... Il fallait que j'arrive à l'heure, que je sois propre, que je sois compétent. Je devais exécuter réellement toutes les consignes que mon maître d'hôtel m'a données. Et j'étais enthousiaste, j'étais fier d'être dans cette équipe.
Ça, je peux imaginer. Ouais. Et vous étiez en salle. Oui,
en salle. Oui, j'ai toujours préféré la salle à la cuisine. À cause, évidemment, de ma curiosité, parce que j'aimais bien parler avec les gens, j'aimais bien apprendre tout le temps. Et apprendre dans une cuisine, on apprend à faire à manger, mais on n'apprend pas la vie.
Mmh. Le contact client.
La vie, on l'apprend avec les contacts avec les gens. Et en même temps, on apprend la cuisine aussi. Hein.
Et en parlant de la vie, est-ce que vous avez eu, en arrivant en Belgique, des mauvaises expériences, que ce soit sociales ou autres ?
Bon, non, pas trop, parce que bon, je suis quelqu'un qui suit les règles. Et je pense que quand on suit les règles, et quand on a un bon travail, qu'on a une bonne mentalité de s'intégrer, on n'a pas de problème. Moi, je n'ai jamais eu de problème, ni mes amis qui étaient en même temps. On n'a pas eu de problème. On a eu un accueil exceptionnel en Belgique. Les Belges sont très accueillants. Nous étions jeunes, nous avons 16-17 ans. On avait envie de conquérir le monde. Pour nous, c'était Hollywood, c'était la même chose.
Ouais. Oui, oui. Et quelles sont les plus grandes différences entre votre ancienne vie à Francavilla-Fontana et ici en Belgique ?
Bon, là, il est difficile de faire une différence, puisque j'avais 16 ans, donc dans ma ville de Francavilla-Fontana, bon, il y avait les choses étaient très dures à l'époque. On parle des années 60, il fallait aller à l'école le matin, l'après-midi, il fallait aller travailler chez les menuisiers ou chez les coiffeurs ou chez monsieur qui réparait les vélos. Moi, j'ai détesté tout ça. Moi, à côté de chez nous, à la maison, il y avait une pâtisserie. Et moi, j'allais là-bas parce que j'aimais bien les friandises. Mmh. Et en même temps, j'aimais toutes ces odeurs que les sucres, la vanille, les épices...
Ça sent très bon.
Faisaient flotter dans l'air, mais donnaient envie de rêver, donc...
Pardon, allez-y.
Non, mais voilà. Et puis mon rêve, c'était... Depuis que je suis né, je savais que ce n'était pas la place dans laquelle je voulais vivre. Je voulais m'évader. D'ailleurs, depuis que j'étais petit, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais un garçon très... rébuant, comment dire. Je tenais pas en place, j'étais pas... j'étais pas très sage, j'étais sauvage, je me sentais pas bien.
Je vois.
Et depuis que j'étais à l'école hôtelière, j'étais aux anges, et puis mais voilà. Et je suis toujours aux anges, encore maintenant.
C'est une belle expérience en tout cas, jusqu'à maintenant.
Et au début des années 80, vous avez ouvert le resto étoilé de la truffe noire. Déjà, pour en parler brièvement, comment ça vous est venu en tête l'idée de l'appeler la truffe noire et quelle est votre relation avec ce condiment ?
Donc là, il faudrait qu'on revienne un peu en arrière. On n'ouvre pas un restaurant et puis on n'a pas une étoile tout de suite. Mmh. Donc j'ai ouvert ce restaurant quand j'avais 36 ans. Donc ça veut dire qu'entre l'âge de 16 ans et 36, il y a eu 20 ans de travail, 20 ans d'expérience au travers de d'autres grands restaurants étoilés, au travers des voyages... que ce soit en Belgique, en Espagne, en France et aux États-Unis également. Donc, il y a eu toute une formation. Il y a eu des rencontres avec des gens, il y a eu des études également, parce que, bon, comme je n'avais pas fait beaucoup d'études, j'ai dû me spécialiser également. Mmh. Pendant que j'ai travaillé, bon, j'ai fait des études de bartending. Donc, j'ai fait des concours de barman. J'étais chèque d'argent ici en Belgique. Puis j'étais aux États-Unis aussi pour faire une expérience. J'ai travaillé à Los Angeles. J'aurais bien voulu rester à Los Angeles, mais bon, j'étais marié, j'avais des enfants et je n'avais pas les permis de travail. Donc je suis revenu ici en Belgique et je ne me sentais toujours pas complet. Donc j'ai fait des études. Pendant que je travaillais toujours, j'ai continué ma formation. Et j'ai fait des études sur la sommellerie. Je suis devenu premier sommelier de Belgique également. En plus, j'étais vice-président de la sommellerie. Donc, j'ai travaillé dans des grands restaurants. Et un des plus grands restaurants qui a parfait à ma formation, c'était le restaurant La Cravache d'Or, ici à Bruxelles, qui était un restaurant tenu par un monsieur qui s'appelait Abel Bernard, qui était français. Quand je suis arrivé, on avait une étoile. Et puis, pendant les 8 ans que j'étais là-bas, on a été un des meilleurs restaurants de Belgique. On a eu 2 étoiles. Et c'est vers l'âge de 35 ans, 34, 35, que l'idée d'ouvrir mon restaurant a commencé à germer. Et puis, bon, c'était un rêve que je voulais réaliser. Et je n'ai pensé plus qu'à ça. Et puis petit à petit, mais ben là, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de souffrances, beaucoup de... Et finalement, j'ai ouvert ce restaurant dans la souffrance. mais avec la ferme intention de dire, je vais réussir. Je vais montrer à mes parents, je vais montrer à mes collègues, je vais montrer au monde entier que quand on veut, on peut.
Mmh. Force et caractère.
Mais oui, mais il faut du caractère, parce que si on n'a pas de caractère et... Oh, moi, mais en fait, il y a eu aussi, comment dirais-je, toujours des bonnes rencontres. Donc, quand on dit intégration, j'ai eu la chance d'être toujours à l'écoute des gens, et les gens, ils ont toujours été à l'écoute. Mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Même au début de mon mariage, on n'avait pas assez de sous. J'avais un plat, comment dirais-je. J'ai travaillé dans un restaurant pendant les semaines. Et les week-ends, j'allais faire des extras pour gagner un peu plus d'argent. Mais c'est surtout par l'amour du métier. Je voulais apprendre un maximum. Et je vous dis, on apprend autant dans un grand restaurant que dans un petit restaurant. Et c'est... Parce que dans les milieux de la restauration, il y a tellement de facettes. C'est comme un diamant. Et pour être un bon diamantaire, bon, il faut vraiment connaître toutes les facettes de ces diamants.
C'est vrai, oui, tout à fait. Et on peut-être quand on apprend mieux au début dans une petite maison, et on monte petit à petit peut-être.
Mais moi, ça a été un peu le contraire. Hein. Mais j'étais très, très fier de travailler dans des petits restaurants parce que revenir aux bases...
C'est ça.
Et puis, ça nous donne des possibilités différentes. Moi, je me souviens, je me souviens d'une anecdote. J'avais travaillé dans des très bons restaurants comme les Carlton, les Parcs Savoie, etc.
Ah oui.
Et puis je devais acheter ma voiture, j'avais 18 ans. Et dans les grands restaurants, on ne gagnait pas, on gagnait pas beaucoup d'argent. Pour gagner de l'argent, il fallait travailler dans des petits restaurants. Et en fait, j'avais un de mes amis qui travaillait au relais de l'avenue. C'était l'avenue de la Toison d'Or, c'est entre les cinémas. Et il y avait un tout petit restaurant, et il y avait des rangs là-bas.
Ouais.
Et en fait, j'ai commencé à avoir un petit rang, et puis à avoir un rang un peu plus grand. Et je me souviens qu'on faisait des steaks flambés, des steaks archiduc qu'on devrait préparer devant des gens. Il faisait du cinéma en salle. Et j'ai adoré cette période. J'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai pu m'acheter ma première voiture. Mais j'ai quitté. Mon copain, il est resté. Mais moi, mon intention était de devenir un grand restaurateur. Donc, je suis parti pour gagner moins. Et j'étais travaillé au Parc Savoie,
ouais,
qui venait de s'ouvrir place Marie-Josée à Ixelles.
Oui, ouais, je vois très très bien.
Et là, bon, c'était un restaurant. On a eu notre première étoile, puis notre deuxième étoile. Et là, on avait une équipe tout à fait extraordinaire.
Ouais, ouais, tout à fait.
Mais là aussi, je ne suis pas resté. Normalement, quand on est dans la restauration, je conseille, quand on est jeune, il faut changer tous les ans. Tous les ans, il faut changer. Il ne faut pas rester quelque part parce que c'est un métier qui s'apprend sous le tas. Mmh. C'est un métier qui a tellement de facettes. Et si on reste toujours dans une seule maison,
alors
oui, bon, on a la formation. On a la formation de quelqu'un. Et puis, on peut avoir sa formation. Mais c'est tellement gai de voyager. C'est tellement gai de...
De changer, d'essayer, de tout essayer, en fait.
Voilà, exactement. Parce que, comme j'ai dit, bon, il y a les petits, les grands, les ambiances, les expériences sont tellement différentes.
Ouais, et enrichissantes.
Tout à fait.
C'est en apprenant de différentes sources qu'on s'enrichit le plus.
C'est ça. L'expérience, c'est quelque chose qui ne s'achète pas.
Mm.
L'expérience, il faut la vivre.
Ouais, ça c'est un bon résumé.
Et vous nous parliez du diamant. Et en parlant de diamant, il y a évidemment le diamant noir, donc la truffe, et qui vous a inspiré pour trouver le nom de votre ancien restaurant, la truffe noire. Quel a été votre premier souvenir culinaire en lien avec la truffe? Et pourquoi avoir cet attachement si particulier au diamant noir?
Eh bien, mais voilà, là c'est arrivé. Donc, après mon retour des États-Unis, j'ai eu la chance de travailler au restaurant La Cravache d'Or. Et là, je suis rentré pour la première fois en contact avec la truffe. Mon ancien patron, qui s'appelait Abel Bernard, il faisait, lui, sa spécialité, il appelait ça la truffe à la croque au sel. Et il faisait ça au mois de janvier et février, deux fois par an. Et c'était un plat tout à fait extraordinaire. Donc à Bruxelles, il n'y a personne qui travaillait la truffe dans les années 80. Et donc de 80 à 88, j'étais la grande spécialité de la maison à la Cravache d'Or. Mais bon. Et moi, ce plat m'était rentré vraiment dans l'âme. Et entre-temps, vers les années 86 et 87, il y a la première truffe blanche qui est arrivée en Belgique. Mais il était arrivé par des petits canaux, parce que les gens ne connaissaient pas. La truffe blanche est beaucoup plus précieuse, beaucoup plus chère. Et il y avait justement des gens qui voulaient introduire de la truffe blanche à la Cravache d'Or. Mais évidemment, comme je n'étais pas le patron, ça n'a pas marché. Mais je me suis dit, les jours où je vais ouvrir mon restaurant, je vais faire les deux. Et j'ai choisi le nom de la truffe noire parce que la truffe noire est un produit qu'on peut congeler, stériliser et conserver aussi. Tandis que la truffe blanche, on ne peut pas. Et puis voilà, ça se remet dans ma tête.
À ce moment-là.
Oui, ben, la truffe noire est née, donc j'avais déjà en tête, j'avais déjà préparé quelques spécialités. Donc j'ai déjà, étant à la crevasse d'or, j'essayais déjà mes plats. Mon plat emblématique est les carpaccio à la truffe à la façon de Luigi,
oui, que
j'ai préparé de moi-même devant les gens. Et c'est ça qui a fait un succès fou. Depuis que je vais à mon restaurant, je ne sais pas combien de milliers, si pas des millions, des carpaccio à la truffe je préparais tous les jours, tous les jours.
En tout cas, ça donne l'eau à la bouche, hein, vraiment.
Oui, oui. Et comment vous pouvez... Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut reconnaître une bonne truffe d'une mauvaise truffe et quelle est la meilleure période pour pouvoir récolter les truffes ?
Mais voilà, les truffes ont une saison. Donc il y a deux truffes qui sont vraiment précieuses. C'est la truffe blanche d'Alba. Donc la saison est d'octobre, novembre, décembre. C'est une truffe très... très fragile, très parfumée. Et c'est une truffe qu'on ne peut pas conserver une fois qu'il est récolté. Donc c'est un champignon souterrain. Une fois qu'il est récolté, il faut la consommer directement. Ça ne s'écuit pas. Ça se râpe sur des plats très simples comme des pâtes, des pommes de terre ou votre plat préféré. Elle a un arôme vraiment très puissant, très particulier. Et puis, bon, il y a la truffe noire, dont la saison commence vers les mois de décembre, janvier, février, jusqu'au mois de mars. Et ça, c'est vraiment, on appelle ça les diamants noirs. C'était la truffe la plus connue, puisque, bon, justement, elle pouvait, par rapport à sa constitution, qui était un peu plus forte, comment dire, ça pouvait supporter les voyages, ça dure plus longtemps...
Plus robuste.
Elle est plus, oui, comme légume, parce que finalement c'est un champignon, hein, c'est un champignon souterrain. Et on pouvait les conserver un peu plus longtemps. Mais une truffe ne se conserve pas. C'est maximum une semaine, 15 jours, et après il pourrit. Donc, Et l'avantage de la truffe noire, c'est qu'on peut la cuisiner. C'est qu'on peut
l'incorporer dans des plats.
Ou l'incorporer dans des farces, des choses comme ça.
On peut la cuire, c'est ça?
Oui, et on peut aussi la conserver. Donc, ouais. Il y a deux façons. Dans les temps, on la conservait soit dans la boîte, on la faisait cuire juste avec un petit peu de sel et un peu de conservant. Et en Bourgogne, souvent, on la mettait dans du marc de Bourgogne, dans du cognac, mais qui donnait des goûts très, 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 très puissants. Enfin, la truffe aussi, elle a été, comment dirais-je, toujours... un mystère. Qui mangeait la truffe? Il n'y avait que des gens qui avaient de l'argent.
Ouais, c'est très cher.
C'est les curés, c'est les cardinaux, c'est des choses comme ça. On disait que c'était les champignons du diable.
Ah bon?
Oui, parce que c'est noir, c'est...
C'est puissant au niveau du goût.
Voilà, figurez-vous que dans l'ancien temps, quand les paysans cultivaient la terre et qu'ils trouvaient des truffes, il l'a changé contre des pommes de terre. Il donnait une truffe pour avoir un kilo de pommes de terre, par exemple.
Ah oui, donc c'était une monnaie d'échange à l'époque du troc.
Oui, parce que la truffe, si vous la mangez tout à fait nature, c'est tellement puissant, c'est tellement fort que c'est désagréable pour le palais. Il faut considérer la truffe comme un arôme.
Un assaisonnement.
Comme une épice, en fait. C'est comme du gingembre, c'est comme du poivre, c'est comme... Tellement ça se coupe en tranches, voilà.
Ouais, en tranches très fines.
Oui, ou un petit morceau. Ou un petit morceau, bon, ça dépend de la préparation.
Et ça donne vraiment envie de manger.
Et comment on peut reconnaître une bonne truffe d'une mauvaise truffe?
Mais comme partout, hein, donc c'est comme imaginer qu'il y a des abricots ou des pêches ou de la nature. Donc la truffe étant un champignon souterrain, il y a des petites, il y a des grosses, il y a des moyennes. Il y en a qui sont rondes, qui sont très belles, il y en a qui le sont un peu moins. Puis une fois qu'on les récolte, on les récolte avec l'aide d'un chien ou d'un cochon, comme on faisait dans le temps. Mmh. Et puis il y a une sélection. Imaginez, bon, qui vous avez 5 kilos de pommes de terre et vous avez 5 kilos de truffes. Vous avez des petites, des grosses. Il faut les trier, il faut les laver. Et puis évidemment, les plus belles, ce ne sont pas les plus grosses, ce ne sont pas les plus petites, ce sont des truffes qui ont plus ou moins la taille d'une mandarine. Mm. Mais, et pas d'une orange, parce que quand c'est une grosse orange ou un pamplemousse, par exemple, elles sont très belles au voir, mais...
Elles ont moins de goût, c'est ça ?
Pas spécialement, mais la truffe étant en fait un aggloméré végétal, il y a 80% d'eau et 20% d'aggloméré végétal. Ça veut dire qu'une truffe de 400 grammes, que vous déterrez une fois que vous l'avez lavée, 4 ou 5 jours après, elle ne pèse plus 100 grammes, mais elle pèse plus que 30 ou 40 grammes. Donc une belle truffe, c'est vraiment une truffe de 30, 40 ou 50 grammes qui est bien régulière et qui est bien parfumée. Et alors l'avantage, c'est que les truffes doivent être fraîches et doivent être saines. Et comment est-ce qu'on sait qu'une truffe elle est saine ? Bon, il faut la prendre dans la main, il faut qu'elle soit bien dure, bien ferme, qu'elle ne soit pas spongieuse et qu'elle ait un très bon odorat. Voilà, c'est les critères qu'il faut voir. La fraîcheur et l'odorat. Et aussi qu'elle soit bien, bien ferme.
Je crois que la truffe n'aura plus aucun secret, ni pour nous, ni pour nos auditeurs.
Non, écoutez, avec la truffe, on est toujours surpris. Parce qu'en fait, bon, il y a des fausses truffes également. Dans la truffe noire, la truffe noire, par exemple, il y a 4 ou 5 qualités que la nature elle donne. Il n'y a que la tuber melanosporum qui est la meilleure. Et c'est une truffe qu'on trouve dans certaines régions bien précises, comme le Périgord, comme les Lottes, comme à Nombril, près des Norcia. Et puis il y a d'autres qualités, comme de la tuber mesentericum, qui est une truffe qui a le même aspect, mais qui sent très fort la térébenthine. Ça sent un peu le vernis, et c'est très désagréable. C'est comme la truffe qui vient de Chine. La truffe de Chine a aussi un très bel aspect, mais le goût est désagréable également. Ça sent les mercaptans, ça sent un goût de pneus brûlés. Donc, figurez-vous qu'une truffe melanosporum se négocie en général de bonne qualité à 1000 euros le kilo. La truffe chinoise coûte 10 euros le kilo.
Ah oui, ok. C'est de la contrefaçon, quoi.
oui et non, parce que bon, mais les tout est. Mais comme tout, toutes les bonnes matières, quand elles coûtent cher, c'est qu'il y a vraiment une raison.
C'est que c'est de la qualité.
Oui.
Oui, tout à fait.
Eh bien, en tout cas, merci. Je pense qu'on va terminer l'interview ici, sinon on pourrait continuer à parler de la truffe pendant
des heures.
Mais en tout cas, un grand merci, Luigi Cicciariello, d'être... venu sur le plateau, d'avoir pu échanger autour de tout ça.
Merci beaucoup, Luigi.
Avec plaisir, quand vous avez envie d'en apprendre plus sur la gastronomie ou sur autre chose, mais je me ferai un plaisir de venir parler avec vous.
Super. En tout cas, merci beaucoup. C'était très instructif et c'était un plaisir de vous avoir avec nous.
Bonne journée. Merci, Scarlett.
De rien.
Bonne journée.
Bonne journée.